Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, un grand cuisinier dans la curiosité, le chef des chefs, Paul Bocuse. Bonjour Robert Bellerey.
Bonjour.
Bonjour,
bienvenue. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes journaliste, grand reporter, biographe et vous avez côtoyé les chefs, les équipiers, les proches de Paul Bocuse. Il a disparu il y a un an et pour lui rendre hommage demain, il y a un dîner exceptionnel qui va réunir plus de 200 grands chefs du monde à l'abbaye de Collonges au Mont-d'Or. C'était une rockstar, Paul Bocuse. Qu'est-ce qu'il incarnait dans le métier ?
Ah, c'était vraiment le chef de file, le chef de clan, le chef de meute, le patriarche, celui à qui on demandait conseil, à qui on demandait le feu vert pour faire telle ou telle initiative. On pourrait presque dire que c'était le parrain.
Parce qu'il avait du culot, qu'il adorait son métier, Paul Bocuse, et qu'il voulait défendre quelque chose aussi.
Bien sûr, mais ça c'est venu après. Au départ, c'est un gamin... parent fermé, qui est toujours dans la nature, qui fait l'école buissonnière plus que la vraie école, qui est toujours en train de pêcher, de braconner sur la Saône. Mais c'est un gamin timide, complexé, parce qu'il ne sera même pas allé jusqu'au certificat d'études. Et donc, le culot, il est venu après. C'est comme une revanche, un petit peu.
Hein. Et j'imagine que quand on n'a pas fait beaucoup d'études, le palmarès, les décorations, il devait peut-être être sensible à ça. Vous nous rappelez en quelques mots, bon, il y a les trois étoiles.
Il y a les trois étoiles, pour lui, c'est le top. Hein, il s'est appuyé là-dessus, le guide Michelin, toute sa vie. Il a eu une première étoile en 58, une deuxième en 62, une troisième en 65. Et après, c'est le plus long. Hein, il bat tous les records, 53 ans de trois étoiles. Il y a ça, il y a meilleur ouvrier de France. Mmh. C'est pour lui un diplôme qui vaut tous les concours de l'ENA. Là aussi, il a dû s'y reprendre à deux fois. Il l'a eu en 61, il l'avait passé en 58.
Alors, trois étoiles au guide Michelin, meilleur ouvrier de France, il en était très fier, mais aussi commandeur de la Légion d'honneur, chef du siècle. Rien que ça, Paul Bocuse qui faisait même des tournées aux États-Unis avec des poulardes et des chapons dans l'avion. Bah oui, une rockstar, on vous dit sur RTL.
RTL.
La cuisine, vous savez, pour moi, c'est le plat qu'on pose au milieu de la table, qu'on soulève le couvercle, que ça fume et que ça sente bon.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et peut-être qu'on peut s'en servir deux fois.
La curiosité est un vilain défaut.
La bonne cuisine, c'est quand ça sent le bon, c'est la définition de la gastronomie française, de la bonne cuisine selon Paul Bocuse. Monsieur Paul, on l'appelait, il est au menu de notre curiosité et on le découvre avec le biographe Robert Bellerey. Alors pour bien comprendre à quel point c'est un immense chef, on va raconter la tournée aux États-Unis de Paul Bocuse. On est en 1966 et on peut vraiment parler d'une tournée de rockstar. Quel âge il a quand il découvre New York déjà ?
Il a 40 ans, il n'a jamais pris l'avion.
Jamais.
Plus casanier que Paul Bocuse, alors on ne faisait pas. Hein.
Alors qu'est-ce qu'il décide à quitter sa région lyonnaise ?
C'est les Dupont de la critique gastronomique, les incontournables Go et Millau, qu'il décide à prendre l'avion et aller à New York. Mais il y va prudemment, il ne va pas acheter un restaurant, ouvrir un restaurant à New York ou à San Francisco. Il va faire des dîners privés. En emmenant les victuailles depuis la France. Alors effectivement,
qu'est-ce qu'il y a dans l'avion,
des volailles, des truffes, et il sort ça. Il commence modestement par un coq au vin à New York pour des gens très privilégiés. Hein. C'est des milliardaires qui se payent quand même. Il est déjà trois étoiles pour faire la cuisine.
C'est un repas combien pour imaginer à 20 000 $
Ah, le coût, c'est inchiffrable. Quand on imagine l'avion. Et puis, il n'y va pas seul. Il y va avec des commis, avec évidemment plein de gens pour l'aider. Mais souvent des copains, des confrères cuisiniers très célèbres aussi qui l'accompagnent.
Je voudrais revenir, Robert Bellerey, sur ce qu'il emporte avec lui. Donc, on dit des poulardes, des trucs, etc. Donc, dans l'avion, il y a la moitié de l'avion qui est occupée par les
poulardes. Oui, non, c'est en saut, j'imagine. C'est dans les caisses en
polystyrène. Il y a pas les poulardes qui se baladent.
Alors, moi, j'avais écrit, quand j'ai fait son portrait pour Le Monde en 90, j'avais écrit qu'il partait avec des truffes dans ses poches. C'était une image, parce que j'imagine,
un peu exagéré.
Si on met des truffes dans ses poches, on peut jeter la veste.
Robert Bellerey, le festin le plus fou que Paul Bocuse ait organisé aux États-Unis, c'était en 1980 pour un héritier d'un groupe pharmaceutique. Et pour l'occasion, que fait-il construire cet héritier pour Paul Bocuse, pour accueillir sa gastronomie, pour l'accueillir lui et ses commis?
Ah oui, ça c'est une histoire de fou. C'est un milliardaire, Johnson & Johnson, c'est une firme pharmaceutique, paraît-il très célèbre, qui a un château, mais un château tout neuf qu'il vient de faire construire. Et puis il veut se payer Bocuse pour un dîner, tenez-vous bien, 250 convives. Est-ce qu'il va mettre un chapiteau dans le parc de son château, ou un barnum? Il n'a pas du tout envie de faire ça. Il fait construire une aile supplémentaire dans son château, en pierre. Voilà. Ouais. Et puis, il faut quand même loger le cuisinier, donc on construit un appartement privé. arriver avec tout le confort, spécialement pour Bocuse, pour passer quelques jours.
C'est génial, parce que c'est pas seulement anecdotique de raconter
non,
ça, parce que il y a une folie, il y a le talent, et il y a aussi donc le talent du cuisinier, mais il y a aussi le talent qu'a eu Bocuse pour faire la promotion de la cuisine française à l'étranger. Oui. C'est ce que ça dit. D'un seul coup, des chefs français, on se les arrache, quoi.
Oui, c'est ça. Il faut voir d'où il vient et d'où vient la corporation des cuisiniers. C'était des gens qui travaillaient dans l'ombre, dans l'obscurité, dans les soutes, on pourrait dire. Ouais. Et puis lui, il va les faire sortir de leur cuisine, les rendre célèbres jusqu'au délire. Maintenant, c'est des rockstars, effectivement, les grands chefs. À l'époque, c'était des inconnus. Et puis là,
c'est quoi le déclic? Comment la première fois
je crois qu'il a compris dès qu'il a eu le contact avec les journalistes, il a su les prendre, il a su les utiliser. Il faut lâcher le mot. Il s'est servi des médias.
Parce que c'était un gars sympa, Paul Bocuse. C'est agréable de l'interviewer, vous qui.
Ouais, c'était un mec un peu timide, je l'ai dit, et simple et intimidant par sa simplicité. Mais sympathique, oui.
Non, parce qu'il a une vie de rockstar quand même. On lui construit un appartement privé. Il devait être millionnaire. Il est resté simple.
Ah, mais il a gardé des goûts très simples. Son grand plaisir, c'était d'aller au bord de son étang dans la Dombe, qui s'était payé. Voilà, son luxe, c'était ça. C'était chasser le canard et se balader dans la nature. C'était pas d'avoir des propriétés de milliardaire.
On parle de Paul Bocuse comme une rockstar, donc on a parlé de sa tournée aux États-Unis. Vous racontez d'ailleurs Robert Bellerès, Destin fou, dans Paul Bocuse, l'épopée d'un chef. C'est publié aux éditions de l'Archipel. Dans quel autre pays du monde c'était une star?
Oh, un peu partout. Il a voyagé. Moi, je n'imaginais pas que c'était à ce point. En Australie, en Afrique du Sud, en Amérique latine. Il a fait tous les pays de l'Amérique latine où il est très célèbre. Mais le pays où il est vraiment plus qu'une star, il est quasiment un dieu, c'est le Japon. Et le Japon, la rencontre s'est faite grâce à un homme qui s'appelle Tsuji, qui est un gastronome et un érudit, un cuisinier japonais. Il y a eu un coup de foudre entre eux. Ce monsieur Tsuji a fait venir Bocuse au Japon. Et ce qui a fait la fusion, c'est le goût de la discipline, de l'ordre, du raffinement, de la perfection.
Oui, mais la cuisine de Paul Bocuse, elle est à l'opposé de la cuisine japonaise.
Bah oui, mais les contraires
s'attirent. Sa cuisine, elle est en sauce, il y a des chapons, c'est pas des sushis, quoi.
Ah, pas du tout.
Ni du poisson cru.
Pas du tout. Bocuse, c'est le contraire de
la nouvelle cuisine japonaise.
C'est vrai.
Non.
Je tendais une grosse perche.
Il y a le goût du produit. Il y a le goût du bon produit. Et puis, il n'y a pas de bluff, il n'y a pas de triche. C'est-à-dire que c'est du travail très, très bien fait. C'était un perfectionniste, encore une fois, qui pouvait être très dur avec ses commis et ses apprentis.
Mais il a ouvert des restaurants dans un certain nombre de pays comme ça à l'étranger?
Oui. D'abord, il en a ouvert un en Floride, dans l'ensemble de Disney, de Walt Disney, à Orlando, que son fils maintenant gère. Mais au Japon, il y a plein de restaurants à l'enseigne Paul Bocuse. Mais c'est des royales. Qui sont sous licence.
Oui. Hein.
Mais non seulement il inspire la carte, mais il place lui-même les chefs. J'en ai rencontré quelques-uns qui s'appellent Monsieur Lan, qui travaillait à Osaka avec lui, qui me racontait des choses étonnantes.
Paul Bocuse, star de la cuisine française, mais elle avait quel goût sa cuisine au fait? Allez, au menu, quenelle de brochet lyonnaise. Au queue d'écrevisse, j'avais pas fini, et poularde de Bresse, demi-deuil, arrosée de brouilly et vieille chartreuse. D'accord. Allez, à table, les curieux, restez avec nous sur RTL.
RTL.
Vous avez eu la chance, on peut le dire, de rencontrer Paul Bocuse plusieurs fois dans ses restaurants ou ailleurs. Vous allez nous retracer son parcours, c'est simple. Il a eu une vie tout simplement exceptionnelle.
La curiosité est un vilain défaut.
J'ai quitté l'école en 1940, à des moments très difficiles, puisque les Allemands venaient arriver chez nous là pour faire un peu de camping pendant quelques temps.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mon père m'avait appris une chose déjà, je savais piéger, je savais pêcher, je pouvais prendre un canard, je pouvais prendre un lièvre, je pouvais prendre des poissons, et avec ça, on vivait bien pendant la guerre, car ça nous servait de monnaie d'échange.
Et même quand il est devenu l'un des chefs, voire le chef le plus célèbre, ce plaisir simple de la pêche, de la chasse au canard, c'est resté le plaisir principal de Paul Bocuse. C'est ce que nous raconte notre invité, le biographe Robert Bellerès. Bocuse qui a disparu il y a un an, presque jour pour jour. Demain, après-demain, c'est la finale du Bocuse d'Or. C'est l'un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde. Alors, Sidonie, tout à l'heure, Vous nous avez mis l'eau à la bouche avec ces quenelles de brochets lyonnaises aux queues d'écrevisse et poularde de Bresse demi-deuil arrosée de brouilly, vieille chartreuse. C'était pour qui ce...
Ça, c'était pour Charles de Gaulle.
Ah, quand même.
Oui.
Ouais, pas mal. 68, c'est ça?
C'est 68, oui, ouais. Juste un peu avant mai. et ça se passe, j'imagine, à l'hôtel de ville de Lyon. C'était pas au restaurant Bocuse. J'avais retrouvé le menu, mais je savais pas lieu. J'ai fait une petite enquête, c'était pour la foire de Lyon. Voilà.
D'accord.
Et c'est ce qu'on peut remarquer dans ce menu, c'est que des produits du terroir. Hein, j'ai mis la chartreuse qui est venue, évidemment, après tout, parce que la chartreuse, c'est la région aussi, c'est l'Isère. Mais la poularde, c'est les quenelles, tout ça, c'est Lyon. Et le brouilly, c'est le Beaujolais. Il défendait les produits, il y croyait, puis il croyait surtout à la proximité, aux produits frais du terroir.
Et est-ce qu'il avait, lui, des plats préférés, ce qui est vraiment le totem de Paul Bocuse, quoi, ce qu'il voulait
absolument. Je dirais absolument. Que c'est la poularde, ou le poulet, ou le chapon.
D'accord.
Et le plus simplement possible, c'est-à-dire cuit à la broche. C'était un fou de la broche. Et on partageait ça. Et c'était ça. Et puis, non, il avait des goûts simples. Son dessert favori, c'était du fromage blanc à la crème. Le blanc crème, comme on dit à Lyon. Voilà. Et puis aussi le loup en croûte. Enfin, il aimait tout. Hein. Il aimait tout. Il connaissait tout. Il savait tout faire. C'était un.
Qui lui avait appris la cuisine? C'est un autodidacte ou il y a quand même quelqu'un?
Ah non, c'était pas un autodidacte. On ne peut pas dire ça. Son père était restaurateur, mais c'était un restaurant modeste, au même endroit. Hein. Il est né et il est mort au même endroit, Paul Bocuse. C'est inouï, 91 ans, dans la même maison.
C'est rare.
Des bords de Saône. Et son père était cuisinier, mais il faisait des fritures, des pâtés en croûte. C'était déjà un très bon cuisinier. Il avait été formé dans les grandes maisons, notamment chez un chef qui était l'ancien cuisinier du tsar. Bon, c'est pas rien. Donc c'était un bon cuisinier, mais il avait un prestige tout à fait local. Mais il n'empêche qu'il a appris là, et puis il a fait ses classes après chez la mère Brasier. Excusez du peu, puis chez Fernand Point à Vienne, qui a été son dieu, son gourou, son mentor, tout ce qu'on veut. Il était fasciné par Fernand Point et il a copié beaucoup de choses chez la mère Brasier, la poularde de Mizan, c'est la mère Brasier par exemple, qui elle-même l'avait piqué chez une autre mère. Et puis le style, la communication, le décorum, la posture, ça c'est chez Fernand Point à Vienne.
Paul Bocuse, l'épopée d'un chef, c'est le titre de la biographie Robert Bellerey que vous publiez aux éditions de l'Archipel. Vous racontez un homme, Paul Bocuse, qui est très attaché à sa région, à sa ville, à son pays aussi. Qu'est-ce qu'il s'est fait tatouer sur le bras à une époque où il côtoyait des GIs qui se faisaient tatouer des aigles? Lui, il a choisi,
vous l'avez deviné, le coq gaulois, évidemment. Ouais. Ça c'était, à la fin de la guerre, il a eu le courage de s'engager. Il avait tout juste 18 ans, il a fait la guerre, il a été blessé très vite. Et il a dû être hospitalisé, avoir des transfusions sanguines. Alors il me disait, j'ai du sang américain plein les veines, mais il avait toujours les images fortes. Et puis, tandis que les GI se faisaient effectivement tatouer des aigles ou que sais-je, ou des dragons, lui, il a choisi un coq sur l'épaule.
Et vous nous disiez tout à l'heure que Bocuse, au-delà de son talent de cuisinier, il avait le talent de la communication, où il savait faire.
Et faire savoir.
Et donc, notamment, anecdote qu'il faut partager avec les auditeurs de la curiosité sur RTL, avec ce chef japonais, ils sont dans un taxi, c'est ça, Osaka. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, le chef en question a la surprise de voir Bocuse sortir de sa poche plusieurs petits autocollants qu'il avait fait confectionner lui-même avec tout simplement un coq tricolore et Paul Bocuse. Décoller les autocollants et les plaquer sur les portes du taxi. Voilà. Il faisait lui-même l'homme sandwich. Il a commencé comme ça, en se faisant photographier avec ses clients qui venaient des fois de l'autre bout du monde. Et les gens repartaient aux États-Unis, au Japon, en Australie, avec la photo, avec le chef. Et son image voyageait à travers la planète, comme ça.
Ce coq qu'il avait tatoué sur le bras.
Et il avait posé d'ailleurs pour une très belle couverture. Il déployait comme ça son t-shirt et on découvrait très sensuellement.
C'est ça, les
voluptueux. C'était ça, Paul Bocuse. C'était aussi des gags pas possibles. On va vous en raconter un bien bon dans un bref instant sur RTL.
14h-15h.
Qui a préparé cette ratatouille? Donnez-moi un nom!
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Référence mondiale de la gastronomie française. Le chef du siècle pour le Goemio, 3 étoiles Michelin pendant plus d'un demi-siècle. Paul Bocuse est mort samedi à l'âge de 91 ans.
RTL.
Les mille vies de Paul Bocuse sont dans la curiosité. Paul Bocuse qui avait d'ailleurs inspiré le chef Gusteau dans le dessin animé Ratatouille. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et d'ailleurs, on le voit...
Je crois qu'on disait Gusteau, hein, mais bon...
J'ai dit quoi Gusteau. Ah, mais je mets tout à l'espagnol, moi. Je suis tellement bilingue, c'est incroyable. Heureusement que vous êtes là, Thomas, pour me ramener sur Terre. La Terre bien française. Nous sommes avec notre invité, le biographe Robert Bellerey. On évoquait ses talents. Alors, ce n'était pas forcément, on le disait, un très grand créateur d'eux-mêmes, mais c'était un très grand interprète, un chef de bande, Paul Bocuse. Pardon ?
C'est ça, oui tout à fait. C'est plus un interprète, mais de quel niveau ? C'est fou. Quoi.
Mais il savait tout faire. Créer quelques plats mythiques et notamment la soupe aux truffes noires VGE, Valéry Giscard d'Estaing. Le président en parle lui-même d'ailleurs, écoutez.
Parmi les plats de lui que j'aime le plus, il y a celui qu'il avait composé, créé pour ce fameux déjeuner à l'Élysée, qui est un consommé aux truffes qui est servi sous une croûte. Et alors je me pose toujours la question de savoir quelle est la destination de la croûte en gastronomie, parce que moi j'aime beaucoup les croûtes. Et elles ont une double fonction, je crois que la sienne c'est pour conserver la chaleur et le goût, puisque comme il y a des truffes dans son consommé, naturellement il faut que le fumet reste à l'intérieur, la croûte protège, mais je trouve qu'elle a aussi une qualité gastronomique gustative, et donc je donne le conseil de manger la croûte.
Heureusement qu'on sait de quoi on parle, une soupe, hein, parce que Valérie Giscard qui dit j'aime beaucoup les croûtes. Bon, c'est sûr, les cadeaux
c'est
à Noël, on pourrait se retrouver avec une sale peinture.
Les bons conseils de VGE.
Mais pas du tout. Robert Bellerey, c'est à quelle occasion que Paul Bocuse a concocté comme ça cette soupe aux truffes noires, avec sa belle croûte, pour Valérie Giscard d'Estaing?
C'est pour la remise de sa Légion d'honneur, le premier rang, c'est-à-dire chevalier en 75. Et ça démarre par un canular. Il y a un copain qui envoie une lettre à la manière de Giscard d'Estaing, style un peu empoulé, en lui disant « Cher monsieur, j'aimerais vous remettre moi-même la Légion d'honneur ». C'était un faux. Giscard la prend, se pique au jeu, et pour sauver la face, il invite effectivement Bocuse à l'Élysée pour la remise de médaille.
Mais savait Paul Bocuse que c'était une blague ?
Au départ, je pense qu'il l'avait deviné assez vite. Mais il jouait de tout. Et pour lui, c'était un rêve d'être reçu à l'Élysée. Il y va évidemment en tenue blanche avec sa toque surdimensionnée. Ouais. Et ses copains, Guérard, Troisgros, etc., qui vont composer chacun un plat. Et lui, il invente la soupe.
Ouais, et il a même un geste que je trouve assez élégant vis-à-vis du chef de l'Élysée. Absolument. De l'époque. Qu'est-ce qu'il fait ?
Il demande au président de la République que son chef attitré participe au déjeuner. Donc, pour une fois, il passe de l'autre côté de l'écran, il se retrouve à table avec eux. Je trouve que c'est très beau, ouais.
Robert Bellerey,
beau symbole.
C'était un farceur, donc on lui a fait des farces, mais il en faisait énormément, Paul Bocuse. Et l'un de ses plus beaux gags aurait d'ailleurs pu créer une crise diplomatique entre la France et la Grande-Bretagne. Pour quelle raison ?
Celui-là, je l'aime particulièrement, ouais. Parce que c'est au départ un coup de téléphone à son ami Paul Lacombe, Léon de Lyon, pour les initiés, à Lyon.
Donc c'est une grande table lyonnaise.
C'est une grande table, oui. Et Léon
Cher au cœur de Laurent Gérard d'ailleurs, à qui on fait un clin d'œil.
Oui, qui vient de la racheter.
Qui vient de la racheter.
Absolument. Et donc il appelle Paul Lacombe, il dit « Fais gaffe Paul, Troisgros va te faire une farce terrible, il veut se venger parce qu'il lui avait envoyé à Roanne, chez Troisgros, un faux ambassadeur qui avait fait un festin et qui était parti sans payer. Il dit « Il veut se venger, il va t'envoyer un faux ministre ».
Un ministre anglais, c'est ça ?
Un anglais qui va arriver avec la Rolls et tout. Fais gaffe, c'est une arnaque. Alors Lacombe dit merci de me prévenir. Et il y a effectivement un vrai ministre qui se pointe avec une vraie Rolls, c'est sa vraie suite. Et il arrive, il se présente et Lacombe arrive vers lui et lui dit « Qui êtes-vous ?» L'autre lui dit « Ministre ». Il se présente
ministre
et il dit « C'est ça, vous êtes ministre et moi je suis le pape ». Il lui tape sur l'épaule ou sur le ventre. On imagine le petit clash.
C'était un farceur, oui. et il saisissait toutes les occasions de faire parler de lui en fait.
Oui, beaucoup. Il savait trouver les mots, faire des gags, sortir des formules, mais il hésitait à rien, il se déguisait, il a fait des fiestas mémorables pour ses anniversaires de son âge ou de ses anniversaires d'étoiles au Michelin. Chaque fois, c'était les fiestas. Moi, j'en ai connu une comme ça, c'était étonnant.
D'un mot, les trois étoiles de son auberge, elles ont été confirmées par le guide rouge. Y a le relais est pris.
Oui, cette année, alors, combien de temps ça durera ? Je leur souhaite de la garder éternellement, mais 53 ans, c'est le record absolu. Voilà. Alors qu'il y en a qui décrochent, y compris des proches de Bocuse. Là, il y a la famille Héberlin en Alsace qui vient de perdre une étoile. Bocuse, pour l'instant, il brille au firmament.
Il tient. Merci
infiniment pour ce très beau portrait de Paul Bocuse, Robert Bellerey. Paul Bocuse, l'épopée d'un chef, c'est le titre de votre biographie qui est publié aux éditions de l'Archipel. À bientôt.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.